bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Kadowo-Denis.
Bonjour à tous.
Tom Villard.
Bonjour.
Guillermo Guise, Daniel Morin, Martin Dupasturo. Oui. Et nos invités sont Victoria Bedos et Jarry.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Il est 11h05.
Pardon ?
Il est 11h05.
Et alors, on a le droit de faire ce qu'on veut ou pas ?
Oui.
C'est la bande originale.
Mais de là, bonsoir à 11h.
Mais il bon, fait bah très alors,
bonne
sombre
nuit.
Ici,
c'est
bon appétit.
Bon appétit.
Quelque part dans le monde, c'est le soir. Mais...
Oui.
Le 11 juillet prochain sortira Christophe, sauf que ça s'écrit Christ avec un off entre parenthèses. Ce jeu de mots nous permet de bien comprendre qu'on est dans l'univers de la religion avec un Lucien Jean-Baptiste
non.
qui...
Non, je comprends pas pourquoi ce pitch.
La comédie, j'adore.
Ça commence très mal cette émission.
Ah ouais. Lucien
Jean-Baptiste. Je suis hyper vénère.
Ça n'a pas été préparé à Paris.
Lucien Jean-Baptiste.
Bon, comme d'hab.
Lucien Jean-Baptiste.
4 fois.
Bon, au moins, on sait.
Tant mieux pour lui.
Tant mieux pour lui, c'est super pour lui.
Lucien Jean-Baptiste est donc un curé qui s'occupe d'un pensionnat.
L'orphelinat.
Et malheureusement, l'orphelinat va fermer ses portes pour raison de budget. Ils ont besoin d'argent. Il faut trouver absolument 50 000 euros.
Euros.
C'est ça. Voilà. Et pour trouver 50 000 euros, il n'a qu'une idée en tête, c'est-à-dire monter un groupe. Et le père Gilles étant une espèce de star du rock'n'roll au milieu de tous les curés, il dit avec le père Gilles, qui est un ami.
Santana de la guitare.
Voilà, quoi. Exactement. Joueur soliste de guitare, on va pouvoir monter un groupe et faire une tournée et récolter de l'argent. Et là, il fait une espèce de casting pour aller chercher différents curés. Il tombe sur vous, Jarry, qui est un curé un peu...
J'ai des images, excusez-moi. Un
peu rigide.
Oui.
Bah, pas surtout, quoi. Bah, pas surtout, non. Il a un corps souple, en tout cas.
Ce qui était super dans ce film, c'est que c'était à l'opposé de ce que je suis dans la vie. Donc...
Finissons l'histoire, d'abord.
Oui, évidemment, mon ami.
Vous.
Très, très rigide.
Voilà, rigide.
Voilà, je réponds.
Suspicieux.
Suspicieux.
Un peu... On se demande s'il n'est pas même carrément intégriste, religion, catho, comme ça, très, il y a des principes.
Exactement.
Et respectons la parole du Seigneur. Mais vous n'êtes pas chanteur particulièrement. Vous, tout ce que vous voulez, c'est danser.
Exactement.
Voilà. Et là, on vous dit, ça ne va pas être possible. Le groupe, il doit jouer. On ne danse pas dans une église. On chante du gospel. On chante des chants dans l'esprit de...
On loue Dieu.
Bah,
voilà.
Écoutez, autant l'écouter. Hein.
Oh Marie.
Ah non, ça c'est...
Nagui, c'est votre playlist personnelle. Ça,
la montre sur ton iPhone.
Ça, c'est la chanson du film. Amen. C'est même le tube du film.
Imagine ça dans les églises en France, on remplit. Hein.
Ouais.
Il serait temps.
On veut relancer en fait la religion catholique.
Il serait temps. Donc c'est du, évidemment, c'est la parole divine et amen et Jésus est grand chanté par ce groupe. Le casting continue avec Bernard Lecoq qui, alors lui, le rôle le plus, je pense, difficile du monde du cinéma. Aucun texte.
Il a fait vœu de silence.
Voilà.
Vœu de silence.
Il écrit sur une ardoise.
Oui, une ardoise.
Voire deux.
À
la craie, il ne prononce pas un mot. Alors c'est pénard, il n'a rien appris comme texte. Ne spoil pas, s'il te plaît. Il n'a rien appris comme texte. Michael Young, lui, est casté comme étant parce qu'il est bon chanteur, bon guitariste, mais pas du tout curé. Donc lui, ça devient le faux curé qui vient au sein du groupe. Et alors, votre personnage arrive, Victoria, vous êtes la productrice, régisseuse, femme à tout faire pour aider les curés à tourner, c'est
ça ? Mauvaise, hein, très mauvaise, bien entendu. Je fais semblant d'avoir le permis. Je fais semblant de tout, en fait. Je porte les valises, enfin voilà, je suis un peu la cruche mignonne qui suit le groupe.
C'est ça, et qui est pas tellement mise en valeur par ses vêtements ni sa coiffure.
Non, j'ai pas accepté ce rôle pour me faire un mec, par exemple. Ça, c'est sûr que je vais pas serrer avec ce rôle.
On sait jamais sur un malentendu.
On sait jamais,
voilà, sur un malentendu.
Il y a des pervers, ouais.
Non, ce qui est formidable,
Daniel,
c'est que au début du film, vous perdez vos vêtements.
Voilà.
Et donc, un curé vous donne un carton de vêtements qui ont été donnés, c'est
voilà.
Ça. Et donc, vous vous habillez différemment tous les jours.
C'est affreux.
Extrêmement drôle.
C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait les essayages, ils faisaient non, c'est pas assez moche. C'est la première fois qu'on me parle comme ça. Et je suis arrivée dans la loge, il y avait les logemans qui étaient là. Ils disent ah putain, elle est mignonne, la petite et tout. Je suis ressortie du HMC, donc du maquillage maquillage, coiffure et habillage. Et là, ils ont fait, oh putain, mon Dieu, quelle horreur. C'est-à-dire que j'étais moche tous les jours. C'est très difficile pour, le, pour l'ego.
Vous savez, on s'y fait, regardez Nagui. Hein. J'en fous maintenant. Hein.
Ce film est une comédie totalement déjantée qui est signée par Pierre Dudan. Jarry, comment vous avez découvert ? On vous a parlé du film, on vous a donné un scénario. Comment ça s'est passé ?
Vous êtes obligé. On l'a dit à la gueule, Jarry. Non, on m'a appelé, on m'a dit on a pensé à un personnage pour vous. Donc je m'attendais à ce qu'on me propose un rôle encore d'homosexuel qui se fait violer au bout de deux jours. Et là, j'ai vu que dans le scénario, à la dixième page, j'étais encore vivant. non, ce que j'ai. Oui, parce que normalement je dure juste deux scènes. Il n'y a pas de texte non plus. Non, là j'étais très content. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai rythme de comédie.
Clairement.
J'ai adoré ce personnage très austère, garant des valeurs de l'Église catholique. J'ai adoré qu'il y ait un peu de folie, qu'il soit interné parce que c'est un ancien violent. Je trouvais que ça me correspondait assez. Que ça... Non, mais j'aimais l'idée que ce soit totalement à composer. Et ce que je trouve génial quand on est comédien, c'est vraiment de jouer et qu'on soit dirigé. Et Pierre Dudan est un super directeur d'acteurs parce qu'il a vu ça chez moi et il m'a proposé ce rôle. J'ai même pas passé les castings. Il m'a dit, on veut que ce soit toi. Voilà, je me suis dit, deux mois en robe, ça peut être un bon délire.
Ça peut aérer déjà.
Ça peut aérer. Et surtout, le film, je trouve que c'est un film, enfin un film familial qu'on peut aller voir en famille avec ses enfants. Et puis, on rigole, quoi. Et on a besoin de rire.
Exactement, exactement. Et puis, c'est au-delà de la direction de Pierre Dudan, le cadre, la lumière, je trouve les moments de chant dans les églises super bien réalisés.
C'est très beau aussi,
C'est carrément du clip, quoi.
Il y a quelque chose de sacralisé un peu, en fait.
C'est vraiment nos voix.
Je sais que tu chantes bien.
Non, mais c'est vrai ce que les gens pensent, mais on a vraiment chanté, Victoria, tu peux le dire.
J'ai fait du tambour, moi, personnellement. Mais je crois que j'étais pas aidée.
Michael Youn, Lucien Jean-Baptiste, Bernard Lecoq, Simon Astier, Jonathan Darona, et donc Jarry et Victoria Bedos qui sont nos invités pour parler de ce film Christophe, ce qui... Non, ça dépote quand même.
Oui, et puis il faut parler du parallèle quand même. Personnage de Michael Youn incarne ce Chris qui est fils quand même de Joseph qui est son beau-père, on va dire ça comme ça, et de Marie, et il se fait mettre à la porte et lui rêve de gloire, il rêve d'ascension, d'élévation, et il y a tout au long du film...
Il y a quelques stigmates quand même sur son corps aussi.
On voit qu'il a 33 ans, en plus quand il se lance dans cette tournée où il ment sur la nature même de sa mission au quotidien, on va dire ça comme ça, et c'est jalonné par toutes les grandes étapes qu'on connaît de la vie du Christ, et c'est ce parallèle de se dire à quel moment on va le retrouver avec les stigmates dans la paume des mains, à quel moment on va le retrouver avec une couronne
d'épines, un moment où il marche sur l'eau.
Voilà. Oui, c'est le Christ et il le sait pas, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est le sauveur. Voilà, c'est le sauveur pour tous.
C'est là où c'est inquiétant. Michael Youn en tant que sauveur.
J'avoue que
ça fait flipper, c'est vrai.
J'avoue que j'ai eu un peu de mal aussi à m'y faire. Et puis finalement, il sauve en effet la totalité.
Non, mais c'est drôle parce que vous réussissez à rire avec la religion sans manquer de respect vis-à-vis de la religion, ce qui pourrait inquiéter d'abord tous ceux qui...
Tout Versailles.
Non. Non, mais au début j'allais dire les cathos, mais c'est pas spécialement les cathos. Ceux qui sont croyants, religieux, quelle que soit leur religion.
C'est pas moqueur du tout,
voilà,
au contraire.
Exactement. Mais vous servez des codes. Non, mais c'est pas ça. Vous servez des codes de la religion pour délirer autour, mais sans jamais ni chercher à blasphémer, ni
Que ce qui est important.
À manquer de respect.
Pour rejoindre, exactement, je crois qu'aujourd'hui la religion s'en sert surtout pour se faire la guerre et surtout pour dire qu'on est différent et qu'on ne peut pas vivre ensemble. Dans ce film, la religion, au contraire, elle réunit, elle est festive et elle solidarise, en fait, ceux qui, à la base, n'étaient pas faits pour être ensemble. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est que la religion, ça peut aussi nous rapprocher si on décide de la voir tous de la même manière.
C'est beau ce que tu dis.
Et puis, il n'y a pas les vannes un peu faciles qu'on pourrait attendre autour de la religion, des curés.
Il n'y a pas de cynisme, en fait. Ça. C'est quelque chose de très frais, très enfantin et c'est très généreux. Et en effet, c'est une bande de pieds nickelés qui se réunissent autour de la religion pour donner de l'amour par la chanson en plus et par la musique.
Il n'y a pas de pédophilie.
Il n'y a pas de pédophilie. J'étais assez déçue.
Par exemple.
Il n'y a pas faute d'avoir demandé.
Enfin, il y a une petite soirée où on s'oublie, hein, Victoria Bedos.
Oui,
mais voilà, parlons-en. Alors justement, merci pour l'enchaînement. Je voulais en parler.
Oh mince, c'est ma première radio promo, je suis hyper mal. Je savais que ça allait arriver.
Non, mais il faut parler quand même.
Oui, il faut parler, on va s'exprimer tous ensemble sur ça.
Votre personnage vit des choses.
Oui, beaucoup de choses. Oui, oui, en fait, c'est un personnage qui ne sait pas qu'elle a un corps de femme. Donc, voilà, elle se découvre en tant que femme. C'est une petite fille. Enfin, je pense que dans ma tête, c'est quand même une sorte de petite pucelle. Qui est très religieuse, très avec Dieu, et
bigote,
et qui est là pour une mission qu'on ne peut pas dévoiler, mais qui a un secret dans le film, qui est pas vraiment là en fait pour être régisseuse, et qui va se découvrir un corps, un désir, et puis peut-être une histoire d'amour même.
Et le lap dance.
Et le lap dance, oui, le pole dance.
Pole lap dance, enfin, la danse.
Mais tout le monde a été gêné le jour du tournage.
Oui,
oui. Comment vous avez travaillé la scène?
Est-ce que quoi?
C'est
toi qui l'as pris?
Oui, elle a pris quelques cours de
j'ai pris
de
des cours, mais alors après, ils ont vu que malgré tout, je devais être harnachée terriblement pour pouvoir juste tenir sur la barre. C'était affreux.
Non, c'est toujours pas dur.
C'est vraiment
c'est
dur.
C'est très très dur. C'est très dur. Non, mais c'est impossible
le pole dance.
Je maîtrise un tout petit peu parce que ma mère était danseuse et que j'ai un corps de rêve. Néanmoins.
Première bonne vanne.
C'est sympa. Eh bien, bonne journée.
Ah, tu dis plus bonne nuit maintenant.
Mais c'est très dur, ouais. C'est très dur le pole dance. Et puis c'est très gênant. La scène, elle est drôle, mais elle est très gênante. Et quand je vois
elle est drôle parce qu'elle est gênante.
Parce qu'elle est gênante, bien sûr. Mais parce que il faut dire que sur le tournage, j'étais la seule fille et que tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir 4 grands frères, quoi. C'était un enfer. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils se foutent de ta gueule en permanence. Et toi, tu dois sourire et faire la mignonne.
En se disant qu'il ne peut rien se passer de sexuel entre vous
et... Voilà. C'est un truc de frangin, quoi, en fait.
C'est ça. Et vous savez de quoi vous parlez.
Ça dépend.
Voilà, là, n'est-ce pas?
Christophe, c'est une comédie signée Pierre Dudan et ça sortira le 11 juillet. Et vous avez raison de préciser, comédie familiale extrêmement drôle et très, très, très musicale. Amen. Non mais on est d'accord, tu viens de caresser Guillermo Guise.
Il est doux, il est très long, on en parlait tout à l'heure.
Pas très doux.
On est sur 15-20 secondes.
Elle t'a fait des grattes.
Mais il n'y a pas de problème, elle peut continuer, moi je m'en fous.
Mais non. Mais non.
On fait ça depuis le début de l'année.
C'est vrai que dans la bande son il y a ces chansons parce que il faut bien aussi.
Oh oui, je l'adore.
On est tous à donf dans la voiture.
Il faut bien attirer le public.
Bah oui.
Elle a tellement marqué nos vies cette chanson.
Bah oui.
Qu'est-ce qu'elle devient?
Elle va bien.
Oui. Cool.
Et donc le Johnny Hallyday que j'avais sous le coude, c'est la scène où vous ne croyez pas que Michael Young puisse être un vrai prêtre, et donc vous lui demandez de bénir le repas que vous allez partager pour la première fois tous ensemble. Et là, il est très embarrassé, et les seules paroles qui lui viennent au moment de bénir le repas.
Oh Marie, si tu savais.
C'est tellement drôle ça.
Cette scène, on l'a faite. On a mis une heure et demie à la tournée. Tellement on pleurait.
Non mais ouais, on avait des fous rires, c'était terrible.
C'était terrible. On pleurait de rire. Ce qui a été super aussi sur le tournage, c'est qu'on avait beaucoup de liberté. On pouvait vraiment proposer des choses et qu'on se faisait des surprises. Donc on était bien loin de s'imaginer que Michael allait nous faire ça. Et non, c'était vraiment un.
Oui, non, mais c'était, en plus, c'est vrai qu'on avait une bande qui a été alors qu'on se connaissait
très
pas.
Soudée.
On s'est rencontrés sur le tournage quasiment et on a été soudés tout de suite. On a réécrit des trucs. On avait envie de jouer, en fait, tous ensemble. Et on se dirigeait parfois quand on se dit, ah ouais, vas-y, essaye ça, machin. C'était très charmant, quoi.
Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était sur le tournage. Je me suis dit, elle est vraiment moche, la gamine.
Quelle horreur! Mais c'est ça être une actrice! Moi je dis, il y a un créneau moche, je le prends quoi! C'est pour moi! Je vais avoir plein de rôles qui vont tomber, hein! Personne veut le faire, il n'y a pas de souci!
Victoria Venot et Jarry sont nos invités. Tom Villa, vous avez compris, j'espère maintenant, au bout de 20 minutes, pourquoi ils étaient là?
J'ai compris, mais trop de problèmes, trop dangereux cette promo.
Bon
non, mais c'est vrai, depuis la jurisprudence texte, on doit faire super gaffe à ce qu'on dit sur les sujets sensibles, les religions, les femmes dans la religion, l'homosexualité des femmes dans la religion, les handicapés, harceler les femmes homosexuelles, handicapées et religieuses à Bangkok. Ça fait un peu enquête exclusive, mais voilà. On va pas tout lister, mais c'est tendu. Hein. Et là, Christophe, on parlait de religion. La religion catholique, en plus, qui est la pire. Autant tu vexes un musulman, tu peux finir avec une fatwa, ça passe. Mais tu vexes un catho, il peut t'obliger à regarder le jour du Seigneur tous les dimanches. Et ça, ça te nique un week-end.
Moi,
on dit que les juifs sont partout, alors les cathos, on n'en parle même pas. Il y a 40 000 églises en France, alors qu'il y a que 36 000 communes. Qu'est-ce qui branle? Tu vois, en plus, un film sur une bande de curés, comme on l'a dit, ça peut vite partir en blague pédophile, et ça comptait pas sur moi. En plus, moi, j'ai fait mon catéchisme et j'en garde un super souvenir.
Moi aussi.
C'est là-bas que j'ai rencontré mon premier amour, Valérie, père Valérie. Et vous voyez, ça dérape. Vous voyez, alors non, si vous voulez, on va quand même travailler la programmation de la bande originale ensemble pour éviter se mettre dans des difficultés. Demain, on reçoit Slimane.
Ouais.
Pour le film.
Avec Sabrina Mazzoni.
Voilà, Break sur la danse issue de la rue. Voilà, donc là, ça peut glisser. Hip-hop, banlieue, drogue. Slimane qu'on a connu grâce à The Voice Menel, Menel Twitter, Twitter apologie du terrorisme, apologie du terrorisme Jihad, 72 vierges, soirée très chiante, alcool, story Instagram, dérapage et bad buzz. Voilà, c'est ça que vous voulez, Nagui. J'ai regardé tout la semaine prochaine, c'est pareil, c'est miné d'embûches. Lundi, on reçoit Eric Judor, une blague sur les Antillais, sur les chauves ou les personnes de petite taille, c'est le CSA. Mardi, Tarraim pour les joueurs, c'est un mec qui joue dans les tripots, argent sale, bar clandestin, mafia, œil de verre, pareil, c'est Ripou. Mercredi, Alix Poisson et Jonathan Cohen pour Budapest, les enterrements de vie de garçon, la prostitution déguisée en striptease, la drogue et les MST, que des emmerdes.
Tout ça, la veille de la Coupe du Monde, c'est très dangereux.
Jeudi, Bérangère Krief et Grégory Fuitoussi pour l'école est finie, l'échec scolaire dans le Nord, la consanguinité, le Front National, des emmerdes. Vendredi, la spéciale anniversaire pour le jeu des 1000 euros, le capitalisme, soudoyer ses auditeurs, mallette de cash, CSA, des emmerdes. Donc ce qu'on va faire, lundi prochain, on recevra Nagui pour N'oubliez pas les paroles. Mardi, on recevra Nagui pour Tout le monde veut prendre sa place. Mercredi, on recevra Nagui pour Taratata. Jeudi, Nagui pour un bilan de la bande originale. Et vendredi, on fait un best-of de tout ça. Moi, je propose, à mon avis, ça va être très bien.
Là aussi, tu vas te faire gueuler, tu vois.
Non, pas le cas. Salut, Stade.
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Victoria Bedos revenait dans cette émission avec Jarry.
Oui, et quand je pense à vous, je pense à vos trajets respectifs sur lesquels on va revenir dans le cours de l'émission avec la bande originale de votre vie. Et je pense aussi à des moments un peu charnières. Pour vous, Victoria, à un événement qui peut ressembler à un accélérateur d'une certaine façon.
Mes chers parents, je pars.
Ça me fait chialer à chaque fois.
Il y a de quoi.
Je devrais m'y habituer quand même.
Toi, oui, mais moi aussi, je peur.
Vous n'aurez plus d'enfants ce soir.
Tellement bien ce film.
Je vole. Par Louane dans la famille Bélier, un carton.
Sa version à elle, parce que c'est pas la même que celle.
J'ai réécrit les couplets.
Vous avez eu le droit d'ailleurs.
J'ai appelé Michel directement. J'ai dit Michel, bah, écoute, on se connaît quoi.
Tu vas pas nous faire chier.
Tu vas pas nous faire chier, Michel, franchement.
Et c'est un carton, c'est plus de 7 millions d'entrées. C'est votre premier scénario au cinéma. Vous co-signez avec Stanislas Karine Malbert.
Oui.
Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand on voit les chiffres tomber, quand on voit le raz-de-marée que ça provoque? Est-ce que ça va trop vite?
Pourquoi je l'ai pas réalisé?
Pourquoi je l'ai pas réalisé? Ouais, c'est ça. Mais pourquoi j'ai un contrat de merde? Non, c'est.
Dénonciation. À chaque homme. Voilà.
C'est un peu pénible quand c'est le premier, parce que ça serait arrivé maintenant. Bon, déjà, je serais très très riche et j'aurais racheté, je pense, la Radio France, et pour faire que des émissions sur moi. Et c'est vrai que du coup, comme je ne connaissais pas les codes du cinéma et tout ça, je ne savais même pas à quoi ça référait, 7 millions et demi. Je fais c'est normal. Bon, en fait, les gens me disaient, c'est dingue. Le premier, ce n'est pas normal. Et je pense que c'est.
Mais même pour le deuxième, le troisième,
oui,
et le quatrième.
Oui, mais après, t'imagines bien que je vais faire que de la merde, du coup, parce que je suis arrivée là tout de suite. Je fais, on est bien là, et après, tu t'écroules. Tu peux que redescendre.
Il ne faut pas comparer.
Non, il ne faut pas comparer. Mais j'ai plein de choses en courant, ne vous inquiétez pas.
Préparez-vous quand même à la désillusion.
Oui, la désillusion, je l'avais à ma naissance, ne vous inquiétez pas.
Non, mais vous avez mal négocié, donc c'est ça l'histoire. Déjà, l'après Famille Bélier, c'est que vous n'avez pas forcément senti que ça allait devenir un raz-de-marée.
Pas du tout. Non, mais surtout, moi, je ne savais pas écrire des scénarios au départ. J'écrivais des livres et des chansons. Donc j'ai appris à écrire un film en même temps que j'écrivais ce film. Et j'ai vraiment, c'était quelque chose de. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent avant d'écrire. Ils savent, ça va être mon concept, je vais faire ça, et qui préparent un peu leur coup. Moi, j'ai une écriture totalement instinctive, ce qui fait que au fur et à mesure de l'écriture, j'ai compris ce que j'étais en train d'écrire et pourquoi je l'écrivais.
D'accord.
Donc,
quelle est la différence, pardon, en termes d'écriture ? C'est le rythme ?
Par rapport à quoi ? Par rapport entre quoi ?
Livre et film.
Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est dans un scénario, c'est les images en fait. Il faut qu'il y ait plus d'images que de réflexion, alors que dans un livre, on peut décrire une commode pendant 10 heures, tu vois. C'est-à-dire que si je mets ça, par exemple, dans une didascalie, j'aurai pas de financement, c'est sûr.
Non, et
sinon, je fais des films norvégiens.
À l'inverse, il peut y avoir 4 pages pour décrire un paysage et ça va prendre que 2 secondes.
Exactement.
Au cinéma, c'est ça.
Mais, et puis, il y a beaucoup plus de dialogue aussi au cinéma. Il y a quelque chose, en fait, qui est plus normé aussi. Moi, j'ai trouvé ça très difficile, en fait, d'apprendre l'écriture scénaristique. C'est pour ça que Stanislas Kahn-Marlberg a été avec moi parce que lui, il sortait d'une école et tout ça. Et c'est quand même, il y a un rythme à avoir. Après, je sais pas, c'est marrant, c'est-à-dire que moi j'aime bien écrire un livre.
Ne criez pas, Victoria, on vous entend très bien. On vous entend très bien.
Mais non, j'ai fait tout un film là-dessus, j'ai envie d'être écoutée.
Ne criez pas.
Non, mais on vient d'avoir France Bleu au téléphone, vous les dérangez.
Elle est complètement folle, on a vécu ça pendant 2 mois.
Hein. On vous entend très bien.
Mais tu sais,
je sais qu'on a l'air vieux comme ça, on vous entend très bien, bien sûr.
Mais non, mais depuis que je pense que tout le monde est sourd, c'est pour ça.
Oui, forcément. Les problèmes de
montez le niveau dans votre casque, vous verrez.
C'est moi qui suis sourde en fait.
Vous criez beaucoup.
Ah là là, c'est agréable comme ça.
Parlez-nous.
Ça permet de poser.
Parlez-nous, voilà. Victoria, parlez-nous.
L'écriture scénaristique. Oui, voilà, je sais plus ce que je disais.
Alors, est-ce qu'on s'en fout ?
Et alors, non, c'était l'exercice de savoir si c'est de l'important était le tempo. Mais
oui, c'est un truc de rythme, en effet.
Et de garder le sens, de garder les valeurs et surtout l'équilibre. Parce que ce qui est fort dans la famille Bélier, c'est que c'est drôle, touchant, émouvant et que. On aurait pu avoir peur que vous enfonciez des portes ouvertes en se disant ok, bah, ils vont nous faire pleurer avec des malentendants.
C'est un truc d'équilibre en effet et d'humour, c'est-à-dire que par exemple.
Vous pouvez parler plus fort maintenant.
Vous savez quoi, je vais faire la langue des signes en fait. C'est bien en radio. C'est-à-dire qu'en fait oui, c'est un truc de rythme. C'est par exemple moi je sais que je suis pudique. Du coup quand je sens que je vais trop dans l'émotion, je vais mettre une blague.
Il y a Jarry qui m'en dorit après.
Mais pourquoi pudique, c'est vrai que je suis pudique.
Pudique était trop.
On le croyait.
Est-ce que vous lisez les scénarios différemment aussi maintenant ?
Oui, maintenant, oui.
Vous écrivez.
J'ai
vous
moins avez... de fraîcheur maintenant, c'est ça qui est horrible. Alors qu'avant, j'y suis allée comme ça, sans me poser la question. Maintenant, je sais comment ça se passe. Et j'ai appris à faire ce métier, donc c'est un peu moins marrant. Mais je le fais avec grand plaisir. Hein, mais
Êtes-vous plus réclamé par des producteurs, des réalisateurs pour justement l'écriture de scénarios ?
C'est devenu mon métier, alors qu'avant, ça n'était pas mon métier. J'avais fait ça comme ça, mais maintenant, je me sens plus légitime. Alors qu'avant, j'étais totalement illégitime à écrire ce scénario. Maintenant, c'est un vrai métier d'artisan. C'est-à-dire que je lis des scénarios, je suis script doctor, j'ai des commandes, voilà. C'est
script
devenu
doctor, c'est-à-dire que vous corrigez des scénarios des autres.
C'est-à-dire que je suis nue sous une blouse blanche, en fait, plutôt. Mais en lisant des scénarios.
Tu veux qu'on se parle ? Toi, tu veux qu'on se parle ?
La pudeur, c'est assez exemplaire, là.
C'est une pudeur inversée, en fait.
Et pour vous, Jarry, même chose, événement déclencheur dans une carrière. Là, on l'a compris avec Victoria, tout d'un coup, découverte d'un univers, d'un métier, d'une capacité qu'elle ne soupçonnait même pas, en le faisant.
Pas votre cas.
Non.
Moi, je savais que j'avais du talent depuis le début. Il va me
répondre. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans votre parcours ? Est-ce que vous identifiez une période où les choses ont décollé ? Est-ce que c'est une rencontre ? Est-ce que c'est une prise de conscience, une prise de risque ?
Je crois que c'est quand je faisais les vendanges dans ma famille et que je me disais « Ouh là là, tout ce qui m'entoure ne me correspond pas » et que les gens me regardaient en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Donc je me suis dit, bah oui, c'est vrai que j'ai pas le côté. Et quand j'ai essayé le bricolage, après, pareil, je me suis dit, tiens, c'est drôle, les outils ne sont pas adaptés à mes mains. Je crois que dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont été des visionnaires. Il y a très peu de temps que je me dis, tiens, je suis peut-être au bon endroit. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de tout le temps être l'élément pot pourri de la déco.
Ça va aller.
Ce qui est très tendance.
Oui, c'est complètement tendance.
Les coloquinques, les majeurs,
les coloquinques, oui. Plein de gens ne savent pas ce que c'est. Non, je crois que j'ai eu la chance, oui, de rencontrer des gens qui ont vu des choses en moi et surtout qui m'ont permis d'accoucher de ça. Après, je ne pourrais pas citer de choses.
Vous n'avez pas
c'est...
un événement qui semble pour vous un peu fondateur du nouvel envol, d'une prise de conscience, parce que j'ai la sensation qu'à partir du moment où on est centré, on a intériorisé quelque chose, on va un petit peu plus loin après.
Je crois que c'est la première fois que je suis monté sur scène pour faire rire les gens et que les gens rigolaient, mais pas parce que ce que je disais était drôle, parce qu'ils rigolaient, parce qu'ils se foutaient de ma gueule. Et là, je me suis dit, ah, c'est cool. C'est-à-dire que il se passe un truc, tu vois.
On a tous eu une enfance de merde.
Non, mais moi j'ai une super enfance.
Ça veut dire de se servir d'une fêlure et d'un mal-être pour finalement en rire.
C'est ça, mais c'est ça.
Non, mais en fait, parce que c'est pour faut rassurer les gens. L'endroit où l'on est, si on ne s'y sent pas complètement bien, rassurez-vous, il y a pour chacun d'entre nous un endroit
on a une place,
où c'est lumineux, où les gens parlent le même langage que nous, où on vous
dit... Pardon, tout à l'heure vous avez dit, je me suis rendu compte qu'au sein de ma famille, dans le métier, l'entourage, l'environnement, je n'étais pas à ma place. C'est violent de dire
non,
je ne suis pas...
Professionnellement, parce que mes frères jouaient au foot et faisaient du judo, moi je ne rêvais que de faire des pointes et de m'entraîner à mourir.
Billy Elliot.
Voilà, Billy Elliot. mes frères me prenaient pour faire des prises, pour s'entraîner à faire des Ochigari, des Ippon Sonagé. Donc moi j'étais que dans la violence du truc, d'être l'homme, je sais pas, d'être le mannequin.
La victime, ouais.
Voilà, la victime. J'étais dans les buts, ils s'entraînaient à faire des tirs au but, donc ça faisait mal.
Le punching ball, quoi.
J'étais le punching ball dans les vignes. J'avais peur des bêtes qu'il y avait derrière les raisins, donc je passais mon temps à crier. Quand vous faites les vendanges,
les insectes.
Ouais,
accepte sa différence.
Le poisson le plus dangereux du monde fait la moitié de ma main. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est gros,
tu sais quel est l'animal qui tue le plus d'êtres humains ?
La guêpe.
Non, moustique.
Bah tiens, tu vois ? Moustique. Non mais j'adorais être sur le tracteur, tu vois. Voilà des choses comme ça. Moi j'adorais à une époque je faisais des marchés.
Ouais.
Tu vois où tu vends des trucs sur.
Ouais,
on
sait ce que c'est, merci. Non.
Bon bah moi j'adorais crier, j'adorais faire tu vois le slogan. Mais j'aimais pas mettre les trucs en boîte, tu vois. Je vendais des œufs à l'époque. Je disais, qui veut des œufs ? Qui veut des œufs ? Moi, j'aimais faire ça.
J'étais le crieur.
Bah oui. D'accord. Et puis, tu vois, les gens ils me donnaient 20 centimes de francs. Et j'étais super content. J'allais m'acheter des bonbons et j'étais le roi du monde. Voilà.
Très bien. C'était là votre première scène, en fait.
Mais ouais, et les gens, c'était génial. Tu croisais tout le monde et tout. Je crois que c'est pas très passionnant ce que je raconte.
Non, si, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est le mal-être que vous avez pu ressentir dans les jeux de foot, de violence, de karaté ou de judo, peu importe. Enfin, de pas vous sentir à l'aise dans un rapport de force ou dans un rapport de mec un peu brutasse, et que de l'autre côté, vous n'ayez pas eu peur du regard des autres, du public, ou d'être un battleur sur un marché sans même vous demander si on allait se moquer de vous ou si comment vous allez subir le regard des autres. Sauf c'est que... ça qui est surprenant, parce que on peut se refermer sur soi, oui. Quand on n'est pas.
Mais j'ai eu une période où j'aurais pu me refermer sur moi. Le problème que j'ai, j'aimerais que les gens comprennent, c'est que moi je suis comme ça et je ne peux pas le cacher. C'est quelque chose que j'ai pas choisi. C'est quelque chose.
Mais souvent le regard
mais
de votre famille.
Choix.
Le regard...
Ah non, mais eux ils étaient super avec
c'est
moi.
C'est ce que je voulais dire. Le regard de votre famille a plutôt été tolérant.
Vous êtes en train de vous toucher tous les deux.
Malheureusement, certains garçons peuvent se retrouver dans cette situation-là.
Des gouttes des fois.
Rejetés par leur papa ou leur frère, et finalement appeler le refuge en se disant je suis pas bien dans ma peau, j'ai envie de me suicider et je suis pas admis par ma propre famille.
Il a appelé l'Olympia directement.
Non, c'est ça. Pour mon père, c'était pas facile, mais ma mère, en fait, ce que j'aime dans ma famille, c'est que ce sont des gens intelligents. Ils ont vu que j'étais différent, ils ont vu que j'avais une autre sensibilité. Ma mère maintenant me dit, je l'ai vu depuis que t'es né. Et en fait, mes parents, ils m'aiment, quoi, point. Et ils se sont dit, il doit être heureux. Et quand j'ai fait mon coming out auprès de ma famille, je vous dis, ma mère, elle était blasée. Elle m'a dit, laisse-moi regarder la fin du film, tellement pour elle c'était évident. J'ai eu cette chance-là, c'est qu'ils sont à la fois à l'opposé de moi, mais à la fois ils m'aiment tellement que ça suffit. Ouais. Et heureusement, parce que sans ça, je pense que je serais peut-être plus là aujourd'hui.
Le film s'appelle Christophe et il sortira le 11 juillet. Michael Young, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos, Bernard Lecoq, Jarry, Simon Astier, qui est juste
génial.
Tout le monde est juste dans son rôle. De toute façon, le casting est dingue. Et c'est signé Pierre Dudan. Merci d'accueillir Guillaume Auguste. Bonjour.
Bonjour les amis.
C'est le seul qui dit bonjour au bout d'une demi-heure.
Bonjour les amis, il faut que j'arrête avec cette tique de langage en fait. Si on était réellement amis, vous seriez venu voir mon spectacle cette année.
Ah, ouais, super bien. T'as un spectacle,
au lieu de passer vos samedis soirs à regarder des rediffusions du Big Deal.
Moi je l'ai vu.
Moi aussi.
Je critique, ouais, voilà, parce que vous êtes, mais pas mes collègues.
Non,
à votre décharge, je suis jamais allé voir Daniel Morin non plus sur scène, alors que de la vie unanime, sa comédie musicale, c'est le max, franchement. J'ai même lu que Daniel était peut-être une des, si pas la petite sirène la plus convaincante de ce quart de siècle. Petite sirène, ça a dû faire tellement bizarre d'être en contact avec de l'eau. Vous le sauriez, si on était vraiment amis, moi, ça fait deux mois, plus ou moins, que j'essaie d'être végétarien. Moi, je fais tout comme Nagui maintenant, exactement. J'ai croisé un stagiaire ce matin, je lui fais mon café. Nagui, c'est mon Yoda. Je dis pas uniquement ça parce qu'ils font la même taille et que à 4 mois près, ils ont le même âge, mais Nagui, il faut partir maintenant.
Nagui est tout à côté de Guillermo, c'est gênant pour tout le monde.
Non, tu vois, Nagui, tu dis, il a un teint incroyable quand même. C'est vrai, ça doit être parce qu'il mange pas de viande ou peut-être parce qu'il part 17 fois en vacances par an, je sais pas, va savoir.
Non, ça s'appelle les origines égyptiennes.
Mais c'est pas facile de quitter le milieu de la viande, en fait.
Alors.
L'odeur du poulet rôti.
Tu parles de qui?
C'est l'odeur du poulet rôti. Sérieux, quand t'essayes de devenir végétarien, chaque fois que je passe devant une rôtisserie, je fonds en larmes comme ça. Vraiment. Il y a le volailler, il me fait, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Excusez-moi. Vous en faites pas, je vais vous rembourser pour le poulet que j'ai léché, vraiment. Non, c'est vrai, si vous voyez un mec dans la rue en train de sucer un CRS, c'est pas tellement par goût de l'autorité, c'est plus par nostalgie, croyez-moi, vraiment. Ça va être bénéfique, franchement, manger des légumes à long terme. Je sais d'ailleurs, depuis que je suis végétarien, c'est le premier truc que les gens me demandent, ils me disent « Alors, tu sens une différence physique ?» C'est une différence physique. Ouais, enfin, j'ai envie de mourir, quoi. Voilà, j'ai plus de force. Je me nourris exclusivement de chips et d'éléments informatiques. Mais je veux dire, c'est vrai, j'ai l'espérance de vie plus ou moins d'un gros batracien. Mais globalement, c'est vrai, c'est compliqué, non? Faut que j'apprenne à cuisiner les légumes. C'est vrai, là, quand je me fais les courgettes, enfin, je crois que ça a tellement pas de goût que mes organes, ils comprennent pas vraiment que je suis en train de manger. C'est ça le truc. Ça, mon estomac et mes intestins, ils font rien. C'est pour nous, ça. C'est pour nous. Ouais, ils comprennent pas. Ou c'est pour la vessie direct. Vraiment, et donc, c'est vrai, c'est pas facile. Mais le plus dur, et ça, c'est une étude très sérieuse qu'il dit, c'est que devenir végétarien, en fait, ça rend immensément beauf. Je dirais les autres. Et là, je vais m'adresser à mes potes. Et je sais que j'ai des potes qui écoutent France Inter parce que j'ai toujours préféré traîner avec des gens plus vieux. Mais, quand on est au resto, que je prends pas de viande et que vous me faites, non, mais attends, tu prends pas de viande, mais tu sais que ta carotte, elle a aussi une sensibilité. Je veux que vous compreniez que. Vous voyez sur Twitter quand il y a un chanteur qui meurt et que les gens tweetent pourvu que Matt Pokora ne fasse pas un album de reprise en se disant « Waouh, je suis trop fort, ça, c'est la première fois que quelqu'un a fait cette vanne ». Je vais vous le dire une bonne fois pour toutes les amis, la vanne de la carotte, un jour vous allez y repenser, ça va vous faire comme quand aujourd'hui vous regardez vos vieilles photos et que sur vos vieilles photos vous avez un mulet, des buffalo et un chien de type caniche. Vraiment, vous aurez la honte, parce qu'ils ne comprennent pas le truc, c'est que moi je deviens végétarien parce que les bêtes, ils ont des vies atroces, pas parce que... J'aime pas la viande. Et si on me dit un jour, voilà, cette vache, elle avait une chouette vie, sur la fin, elle a eu Netflix. Avant de mourir, elle a vu la casse à les papels et tout, elle a trouvé ça un peu long, surtout les 86 derniers épisodes. Mais elle a eu une très belle mort. Franchement, elle est morte d'épectase, comme Félix Faure. Et là, je me dirais, ok, mais si vous comprenez pas épectase, vous faites comme tout le monde, avec les mots difficiles, demandez à Lila. Ça veut dire mourir en train de ken.
Oh oui, exactement.
Exactement. Ah, c'est moi, je vais écrire un truc sur la Coupe du Monde, ça me fera plus plaisir. Bonne émission, les amis.
Merci, Guillaume. La bande originale. Si vous n'avez rien compris, vous pouvez la revoir, cette séquence, sur le site.
C'est tellement génial.
De France Inter. Guillermo, t'es devenu veg.
Franchement, j'essaye, quoi.
Essayer.
Non, tous les gens, tu manges de la viande.
Ça veut dire flexible.
C'est compliqué, mais réduire le rythme.
Mais dis la vérité. Jamais t'as un moment de faiblesse parce que tu manges pas de viande. Arrête.
Non, c'est plusieurs.
Les gens.
Non, mais c'est pas évident parce qu'il y a les tentations qui sont là. Les tentations sont là.
Mais je suis exactement
comme toi. Ça fait combien de temps, toi, que t'es plus.
2 ans et demi.
Ah, putain. Regarde Hitler, t'es végétarien, hein, aucun moment de faiblesse. Hein.
2 ans et demi. Mais sinon, je suis totalement d'accord avec toi.
Sinon, on peut venir te voir au Bataclan, on peut se rattraper.
Tout à fait, ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est
très plaisant. Ça sera quand?
Ce sera fin décembre 2018. Voilà,
c'est tout. Un vrai cadeau, son arrêt.
Ouais, voilà.
La bande originale de Victoria Bedos et Jarry en musique. Alors, en musique, on va revenir sur Christophe quand même. Il y a un bon son en plus, hein.
Ouais.
Il y a un très bon son.
Les frères Colleux.
Très bon son. C'est l'intérêt aussi et la force du cinéma d'être dans une salle comme ça et d'avoir le surround 5.1. Ça
tu l'as vu de chez toi, Nagui, ça va. C'est la taille d'un cinéma.
Salle de cinéma 5.1, c'est l'avantage des salles de projection. La bande originale de Victoria Bedos et Jarry, on va commencer en 1983, Victoria. Et là, vous écoutiez...
Alors, c'est pas moi qui écoutais. Hein.
Non, c'est ce qu'il y avait à la maison.
Oui.
C'est ce qu'il y avait à la maison, du Bowie.
Oui, en fait, j'ai demandé à ma mère, en fait, en 83, parce que moi, les oreilles étaient pleines d'eau et tout ça, c'était compliqué avec le liquide amniotique. Mais du coup, elle m'a dit qu'elle écoutait ça pendant qu'elle était enceinte. Je lui dis, bah, tu dansais vraiment. Ouais, j'avais envie que tu sortes, quoi.
Elle voulait, elle, vous sortir en boîte et,
voilà,
et vous sortir de la boîte.
Donc, elle écoutait ça. Et comme elle, elle m'a appris à danser à ma naissance, on a dansé beaucoup sur ça après.
Voilà. Mais je suis sûr que ça a une influence, la musique que les enfants peuvent entendre dans le ventre de la maman.
Je crois. Je suis sûr. Exactement.
Et tout à l'heure, vous parliez de votre enfance. Comment vous pourriez la qualifier, votre enfance?
Alors moi, j'ai l'impression, alors comme j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Déni, autant vous dire que je ne sais plus. Mais
comment ça, vous ne savez plus?
Non, mais j'ai un souvenir très, très cotonneux et très agréable de mon enfance. Vraiment. Ça s'est gâté après, quand j'ai compris que la vie, c'était de la merde. Mais
d'où vient cette désillusion?
À 5 ans et demi. Ouais,
c'est ça. Non, mais c'est cool de reconnaître le confort et la chance que vous avez eu d'avoir les parents que vous avez eu.
Ah oui, mais complètement. Ouais. J'étais très heureuse. C'est une vie magnifique.
Et pourquoi la vie, c'est de la merde à 5 ans et demi?
Non, mais je crois que j'ai eu un principe de lucidité. C'est qu'avant, j'étais protégée par l'inconscience. Et puis, je crois que c'est un peu ce qu'on appelle l'adolescence, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des sensations, on regarde le monde différemment. C'est comme si on changeait de lunettes. Tout d'un coup, j'ai vu que je sais pas quoi, qu'en fait mon frère allait pas si bien que ça, que les gens ne m'aimaient peut-être pas. Puis moi, j'ai eu des problèmes d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, je ne grandissais pas, mais j'étais en avance à l'école. Ce qui en fait, très vite,
physiquement,
t'es la loseuse, quoi. Ouais. Très vite, t'es la bolosse.
Un décalage entre la tête et le corps.
Ouais, c'était horrible.
Ceci dit, en prenant l'ADN de vos parents, vous chopez l'humour de Guy Bedos, la beauté de votre maman Joël, danseuse et mannequin. Non, mais.
Merci, Nagui.
Franchement.
Non, mais c'est pas. Mais en même temps.
Faut reconnaître quand même qu'il y a un côté génétique aussi dans
c'est
tout
gentil.
Ça.
En tout cas, mon père a eu bon goût. Il l'a chopé au berceau, celle-là.
Mais cette prise de conscience hyper tôt, est-ce que ça vient pas du fait aussi qu'on est élevé, non pas comme un enfant, mais comme un individu?
Si, voilà, exactement. C'est-à-dire que mes parents, en fait, il n'y avait pas la table des enfants et la table des adultes, en fait. On a rencontré des gens très intelligents et très drôles très vite. Et on nous demandait notre avis très, très, très vite, peut-être trop vite. J'en sais rien, en fait. C'est comme ça qu'on a été élevés et c'est pour ça qu'on a eu une réflexion sur le monde assez précoce.
Est-ce que ça donne des sales gosses, justement, de demander très tôt à un enfant son avis?
Alors, j'ai envie de rester très proche de mon frère en ce moment, vraiment. C'est important, c'est l'anniversaire de mon père vendredi, j'ai pas envie d'emmerde, en fait.
J'arrive, vous, dans ces années de on est fin 99, vous écoutiez?
Ça n'a rien à voir.
C'est pas la même année?
Et vous la connaissez par cœur?
Bah oui, évidemment.
Bah évidemment.
Mais comment elle a pu chanter une chanson qui était autant prémonitoire? C'est terrible, la pauvre. Tu m'oublieras. Alors, un tube, elle a disparu.
Alors, il y a eu plusieurs versions. C'est la troisième version de cette chanson.
Ah bon?
Ouais. Première version, c'était Régine.
Régine?
Régine a chanté Tu m'oublieras. Ça n'était absolument pas un succès. Ensuite, il y a eu Gene Manson qui l'a chanté. Ça n'a pas marché. La Rousseau arrive et ça devient un carton. Ouais. Comme quoi,
c'est couillu, hein,
faut rien lâcher.
Non, mais c'est génial parce que tu pouvais faire des chorégraphies sur cette chanson.
Des vibes.
C'était vibes. Toi, tu pouvais faire des tu la connais. Je suis sûr que tu l'as dansé avec tes parents à la
bien
maison.
Bien entendu.
Et en plus, en 99, vous arrivez à Paris, Jarry, donc un terrain de jeu exceptionnel pour danser et chanter la Rousseau.
Complètement.
Vous quittez votre région natale parce qu'en fait, vous faites un constat. En gros, j'ai des congés, j'ai un boulot, j'ai de l'argent. Ouais. Mais pourquoi? J'ai 22 ans, mais que faire?
C'est exactement ça, je m'ennuyais profondément. Je me suis dit, putain, à 22 ans, il faut que je prenne plus de risques. J'avais envie de monter à Paris pour voir comment les gens vivaient.
Vous faisiez quoi?
Je formais les enseignants à l'étranger. J'utilisais la littérature maghrébine comme moyen d'apprentissage de la langue. Et je travaillais 12 heures par semaine et j'avais 14 semaines de congés par an. Je gagnais très bien ma vie. Je me disais, oh, c'est terrible, c'est ennuyant. Et je suis monté à Paris et là, on m'a dit, ah, tu vois, on t'a trouvé un appartement dans un endroit vraiment sympa, place des fêtes. Et là, j'ai vécu dans un 9 mètres carrés. Et moi, je venais d'un endroit où on disait bonjour à tout le monde. Donc, je suis arrivé à place des fêtes.
C'est toujours en province.
Ah ouais? Et je disais bonjour à tout le monde et personne ne me regardait.
Évidemment, la première fois que je suis rentré dans un wagon de métro, j'ai dit bonjour. Et là, ils ont dû se dire, il va nous faire la quête, il va nous chanter un truc.
Exactement.
Il vient d'ailleurs, il savait tout de suite.
Mais non, mais on t'apprend à dire bonjour. Quand tu rentres dans une boulangerie, on t'apprend à dire bonjour à tout le monde.
Mais moi, je le fais.
Pas à Paris.
Moi, je le fais encore aujourd'hui.
Ouais, là, c'est parce que tu te la pètes. Mais
non, pas du tout. J'aime bien quand tu vois les gens en prison, juste derrière, tu leur fais bonjour.
Hey, ça va? Voilà. Tu les agresses en fait, ça. C'est
tellement pas parisien.
Ça leur fait du mal. En fait.
En tout cas, vous avez place des fêtes dans votre 9 mètres carrés et vous rejoignez une compagnie entrée de jeu.
Complètement. Une compagnie de théâtre forum où là j'apprends tout le métier. J'apprends à improviser, j'apprends à jouer, j'apprends à ne pas tricher, à être sincère avec un monsieur qui s'appelle Bernard Grosjean.
Alors le théâtre forum, il faut expliquer, c'est utilisé de plus en plus par exemple dans les entreprises.
Exactement.
Une compagnie vient, quelques membres de cette compagnie prennent une thématique, je ne sais pas, la diversité, la discrimination, le féminisme, et ils organisent une forme, c'est de l'impro avec les gens et ils participent à une conversation globale en fait.
Avec les gens de la boîte.
Ouais. Tout le monde par atelier en fait.
Complètement, ça a été inventé par Augusto Boal qui à l'époque en Argentine voulait dénoncer ce que faisait le gouvernement et utiliser le théâtre en fait pour que les gens puissent s'interroger
et s'exprimer. Tu vois bien ?
Ouais.
Super. En 2009, premier concert pour Vicky Banjo. J'aime faire l'amour.
Ouais, c'est un petit peu insistant.
Déjà, à cet âge-là, tu le
j'aurais dû enlever quelques... Bon.
J'espère que ça vous est arrivé quand même une fois.
Non. Justement, non, je demandais aux gens de... Enfin, j'en pouvais plus, quoi. J'avais vierge à 25 ans, c'est chiant.
Mais quel mytho.
Et c'est la scène en 2009.
C'est votre groupe.
Victoria, hein. Vicky Banjo.
Oui. Oui, alors...
Comment est venu le pseudo?
Parce que, alors Vicky, j'ai peut-être pas Victoria, besoin de... Je peux faire les sous-titres, hein, mais...
Et Banjo
parce qu'il s'appelle Olivier Hurvoix de Clomadé, en fait c'est un duo. Je trouve ça, il prenait trop de place sur l'affiche. Donc je lui dis, tu joues de la guitare, mais Vicky guitare c'est nul. Donc Banjo, non il jouait du banjo à un moment donné.
D'accord.
Pour ça.
Et vous racontiez que votre premier concert c'était donc en 2009 au Chouchou Bar.
Ah, oui.
Et vous aviez chanté L'Homme Parfait.
Oui.
Et ce qui était assez drôle parce que pour vous à l'époque... Parce que vous veniez de foirer votre mariage.
Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est vrai. Parce que j'avais oublié que les gens avaient des infos.
Ah, vous êtes...
Enfin, on n'a pas d'idée ensemble. Il y avait...
Donc vous étiez vierge et mariée, les deux en même temps.
Non, j'avais...
Imagine, la joie.
Avec un catholique intégriste, oui. Non, j'ai une vie de femme très tardivement. Parce que j'étais une enfant sage, moi, vraiment. Et puis, justement, j'ai failli me marier avec quelqu'un d'assez austère. Et qui voulait me mettre dans un carcan, mais que j'avais décidé et que je voulais parce que ça me rassurait. Et puis en fait, un mois avant le mariage, j'avais la robe, le traiteur, tout ça. Personne ne voulait venir à mon mariage, donc je n'avais pas de parents, pas de témoins, bah, pas d'amis en fait.
Pas de vie.
Et du coup, je me dis, il y a peut-être un blême.
C'est incroyable.
Oui. Et j'ai compris que donc je lui ai dit en fait je veux pas me marier, mais donc il m'a chassée et j'étais fâchée avec tout le monde.
Il m'a répudiée.
Et vous vous reparlez maintenant avec Michel Sardou.
T'as lâché dans le bois de Boulogne, il t'a dit t'as 10 minutes.
Et je sais pas pourquoi j'ai commencé, enfin le jour de cette rupture, j'ai écrit L'Homme Parfait. Et une nouvelle érotique aussi pour GQ Magazine.
Et tout ça a donné le film Vicky.
Et tout ça a donné, oui, puis voilà, exactement. Voilà. C'est tout d'un coup, j'ai eu besoin de crier et de dire, en fait, je suis une femme et je ne suis pas. Alors, j'ai dû passer par je suis une pute, mais en fait, je voulais dire je suis une femme, ce qui n'est pas la même chose.
Exact.
Ah, c'est un joli message.
Il fallait une caricature. Vicky, c'était un peu ma caricature, en fait.
Jarry, en 2009, c'est une rencontre avec Didier Bourdon, et à ce moment-là, vous écoutiez. I just wanna be free in this way. J'adore. Just wanna be free in my world.
Vivere per libertà. Comment il s'appelait ? Vivere per
libertà. Et là, il se passe quelque chose d'assez fou dans Bambou. Didier Bourdon, à qui vous donnez la réplique, vous avez un petit rôle, vous dit...
En fait, je viens pour le casting du film
casting.
Où j'ai trois lignes. Je fais la scène devant lui, il me dit « Écoute, c'est pas du tout ça ». Donc là, je me dis « Ok ». Et il revient 5 minutes après avec un scénario et je me retrouve à jouer son meilleur ami dans le film. Donc j'ai une vingtaine de jours de tournage. Et pendant tout le tournage, il n'arrête pas de me dire « T'es drôle, fais de l'humour, écris de l'humour ». Et moi, je lui dis « Ah, t'es sûr, moi je rêve de comédie française et jouer des tragédies. J'ai envie de mourir des heures à la comédie française sur un vinaigre ». Et il me dit « Gagne du temps, va faire rire les gens ». Et j'écris un sketch et il me dit « Écoute, il y a une scène qui se fait où il y a Gilbert Rozon à l'époque qui était dans la salle et qui est tout à fait correct avec moi ».
Je joue la scène.
Ce qui n'a pas été le cas. Tout
non,
temps.
J'aurais dû mettre une robe. Et bim.
Ou pas.
Ou pas. Et bim, et là, ça va.
Et bim, quoi.
Et ben, bim, on me propose de venir au festival de Montréal juste pour rire, pour faire toutes les premières parties des artistes français. Et j'écris mon spectacle, j'arrive à Paris, et puis.
Donc Didier Bourdon, c'est un peu le parrain, quoi.
Didier Bourdon, pardon. Je suis complètement traumatisé par tout ce qui t'est arrivé, Victoria. Je comprends plein de choses de ce qui s'est passé pendant deux mois.
Attends, de quoi tu parles?
Mais tout ce qui t'est arrivé, ce truc de se marier, d'être lâché, il t'a chassé.
Non, c'est l'inverse, c'est elle qui a.
C'est moi qui j'ai refusé de me marier. Le mec, bien entendu, il dit bah casse-toi, enfin, tu vois, c'est normal. Putain. Après, de là à me laisser dans la rue, non, c'est pas vrai.
C'est triste. J'ai hâte de voir le DVD avec le making-of du film et les bonus, parce que j'ai le sentiment qu'il y avait une très
bonne ambiance. C'était dingue.
Entre vous, Mickaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos, Bernard Lecoq, Jarry et Simon Astier, pour Christophe, le film de Pierre Dudan, un film justement où la toile de fond est la religion. C'est pour ça qu'Éric Vincent, bonjour Éric, journaliste au Monde des religions, vous a demandé de venir, d'autant qu'il y a un numéro sur la sexualité sacré.
Tout à fait.
Parce que qui dit religion ne dit pas forcément abstinence, et au contraire, bien au contraire.
Alors oui, déjà la question du sexe est investie par les religions, alors souvent en effet par la restriction, mais aussi, et ça on le sait moins, par l'exaltation de la sexualité dans certains cas. Et donc en effet, on va par exemple
toutes
parler...
Toutes religions confondues ?
Plus ou moins. Il y a les religions orientales par exemple, avec leur courant tantrique. Le tantra, voilà, vous voyez un peu de quoi je parle.
Et oui, qui permet à Sting de faire l'amour pendant 7 à 8 heures grâce au tantrisme.
Il s'endort, là, c'est pas possible.
C'est bien le tantrisme.
Non, écoute, c'est le tantrisme.
Ce sont des voies spirituelles extrêmement
intéressantes. J'ai pas vu les images,
je sais
pas comment ça se passe.
Un peu galvaudé en même temps, souvent, voilà, on a des idées un peu fausses là-dessus. Mais en tout cas, c'est un exemple de cette intégration de l'érotisme et de la quête mystique.
Alors, la religion qui est la toile de fond de ce film Christ, off, on est d'accord avec ce jeu de mots. Ça a toujours été, c'est un domaine de prédilection pour le cinéma. Comment c'est vécu, comment c'est perçu? Vous me direz, ça dépend du traitement, mais voilà, comment c'est perçu par les croyants, encore une fois, toutes religions confondues?
Ben là, je crois que ça dépend en effet du traitement. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas tant de films que ça qui rentrent dans l'expérience de la foi, ce qui est bien sûr difficile. Hein. Alors là, on a eu des tentatives cette année. Je pense que L'Apparition, par exemple, ou La Prière sont des films qui essayent justement de s'approcher de l'intériorité. Bon. Alors sinon, après, on a des comédies, voilà, ça, on en a vu aussi. Comme Qu'est-ce que
je pense par exemple
Dieu
à Jésus revient dans La vie est un long fleuve tranquille, quand Bouchité chante Jésus revient. Ça choque. Ça fait partie de ce qui gêne
Ça, je pense qu'après, ça dépend de notre degré de sensibilité. Peut-être que l'ex-mari de Victoria aurait été choqué par ce genre de choses.
Non, mais le pauvre, mon Dieu. Oh, je m'en prends plein la gueule, c'est horrible.
J'ai un catholique qui est très, très engagé.
Non, mais donc Camillo, par exemple, pour prendre des faits
de question. Je pense que ce qui blesse vraiment les croyants, c'est quand on se moque, par exemple, du fondateur de leur religion.
D'accord.
Et surtout si ce fondateur est Dieu lui-même.
Donc les Monty Python, par exemple, ont choqué.
Avec Sacré Graal.
Quand ils chantent sur la croix.
Ça peut choquer, oui, tout à fait. Je pense que voilà, quand on s'approche en effet du blasphème.
Quand ils chantent, il faut prendre la vie du bon côté en étant crucifié.
Oui, c'est un peu dur. Je crois qu'il y a une vraie différence entre se moquer, par exemple, du clergé et des religieux, et se moquer de Dieu, des personnages sacrés, etc.
Quand on a tourné le film, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de ça, et même avec des gens, parce qu'on allait tourner dans des lieux où il y avait des prêtres et des moines, on en a parlé avec eux, et vraiment, leur message était super de dire, à partir du moment où tu parles de religion, de toute façon, c'est déjà génial. Donc,
c'est réaliste, en tout cas.
Et ça, je trouve ça bien de véhiculer ce message-là.
Ouais. Ils nous ont ouvert leur église, leur cathédrale, c'est très accueillant, c'était assez beau.
C'est bien que vous ayez eu cette expérience, vous, et que vous ayez vécu comme ça.
Mais nous, on n'avait pas du tout envie, aussi, dans notre partition, de manquer de respect pour manquer de respect.
C'était pas
la
du
provocation,
tout le but du film,
le buzz, ça nourrit rien, ça nourrit que l'extrémisme.
Exactement.
Donc nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de respecter. Et c'est pour ça que je crois que ce qui est important, parce que là, sur peut-on rire, ça revient à peut-on rire de tout. Je pense que
ça
plus que
comment et avec qui.
Oui, mais je crois qu'il faut encore aujourd'hui qu'on se batte, en tout cas dans les comédies, pour qu'on puisse se détendre et dédramatiser tout ça.
Parce qu'on en a besoin. C'est vrai qu'il y a une telle pesanteur à l'heure actuelle avec le terrorisme et qui se revendique de la religion.
Alors, quels sont les films qui ont le plus choqué en matière de religion ?
Bah, la dernière tentation du Christ. Enfin, après, voilà, ouais. Faudrait faire l'historique. Hein. Il y a eu un certain nombre. Je pense que notre sensibilité a peut-être aussi baissé, hein, à force de voir justement des affiches. Enfin, je sais pas, penser aux années 80, on était moins préparés. Hein. Il y a eu donc toute une longue évolution, une longue maturation. Mais par d'autre côté aussi, on pourrait
vous
dire.
Vous rappelez qu'il y avait des attentats dans les cinémas brûlés.
Mais oui, il y a
des cinémas
qui ont brûlé quand même. Ouais, et donc c'était assez violent. Hein.
Dans le quartier latin. Ouais.
Alors, par ailleurs aussi, on pourrait dire qu'on se moque peut-être pas de toutes les religions de la même façon. Qu'il y a des religions qui sont plus faciles à brocarder que d'autres.
Le christianisme ?
Ben oui, je pense. Je pense que pour diverses raisons, comme on a dit, se moquer du clergé, déjà, c'est plus facile. Il y a des codes en quelque sorte qui remontent au Moyen Âge, hein, de la satire anticléricale.
Hein. Mais ça, on le voit à l'aune du pays où on regarde les films.
Bien sûr, mais
c'est pas vrai mondialement.
Se moquer du judaïsme, par exemple, c'est pas très facile.
Est-ce que...
Mais qui dit ça ?
Bah oui.
Disons que je pense qu'il y a peut-être une autocensure de la part de beaucoup d'entre nous, parce qu'on connaît pas bien aussi. C'est-à-dire qu'on croit connaître les codes de la religion catholique, ce qui est souvent d'ailleurs un peu faux. On tombe un peu souvent à côté. Mais bon, c'est des images dans la publicité ou dans, comme on dit, donc à milieu, des choses qui sont assez anciennes aussi, hein, qui datent des années 50.
Parce que c'est pas la religion majoritaire aussi, donc peut-être.
Mais c'est plus facile de se moquer de la religion majoritaire que d'une religion minoritaire, ça c'est logique.
Bon, voilà. Forcément.
Et après, il y a toujours la question aussi, voilà, de l'antisémitisme je pense que le degré de sensibilité n'est pas le même selon les religions.
Pourtant, il y a Rabbi Jacob.
Mais est-ce qu'on pourrait refaire Rabbi Jacob aujourd'hui ?
Et ben justement, ils vont le refaire.
Ah ben voilà,
ils vont faire la suite.
C'est Michael Youn qui jouera.
Maintenant, il va faire. Il sera le Bouddha bientôt.
Est-ce qu'à l'inverse, des films comme Des hommes et des dieux peuvent créer des vocations ?
Je sais pas si des vocations religieuses, je sais pas, mais des vocations de cinéaste ou d'acteur, oui.
Moi j'ai une vocation en regardant The Young Pope, c'est-à-dire Jude Law en pape. Je n'en
une vocation
peux plus.
De maîtresse de pape.
C'est ça. Je veux absolument être autour de lui.
Irrévérencieux.
Très irrévérencieux.
Oui, c'est très subversif.
Mais c'était subversif.
Une vie sexuelle au pape, quoi.
Oui, complètement. Ouais. Mais en même temps, je l'ai trouvé ça assez bien fait, assez délicat, néanmoins.
Mais je crois qu'il y a un traitement quand même aujourd'hui du religieux qui parfois peut être un peu plus subtil que ce qu'on voyait il y a quelques années. Mm-hmm. Je pense aussi même à des choses inattendues comme Game of Thrones. Par exemple, dans Game of Thrones, le religieux est vraiment présent. Ouais. Et plus les saisons avancent, plus le religieux monte. Et ça, c'est intéressant, je dirais.
Puis il y a aussi des films qui mélangent les religions, ce qui était le cas de Coexister, il y avait un rabbin qui était... c'était un imam qui était le faux imam. Le rabbin et le curé qui se mettaient aussi à chanter ensemble pour on peut tous être ensemble. Est-ce que là aussi, ça peut apaiser les tensions ?
Disons qu'apaiser les tensions, je pense que...
Il y en a malheureusement.
On a un certain nombre. Montrer que la religion, c'est pas forcément dramatique, comme le disait Jarry, qu'on peut en rire, qu'on peut aussi en effet vivre ensemble. Enfin, je crois que tout ça est bienvenu. Après, il y a la question aussi souvent de l'éloignement entre, je dirais, la sphère médiatique et artistique et celle du cinéma, par exemple, et la vie des croyants et les mondes religieux. Je crois que de ce point de vue-là, il y a un écart qui est difficile à combler. Alors voilà, bon, moi je pense que ces films sont quand même utiles.
Je crois qu'aujourd'hui on fait quand même un grand pas. J'ai l'impression que les religieux, les gens qui sont vraiment croyants et qui sont à cheval sur ces principes, sont quand même des gens tolérants. À partir du moment où ils ont l'information, je pense qu'aujourd'hui on a un devoir de transmettre.
Les religions, c'est la tolérance.
Il faut surtout, je pense que les gens qui sont un peu choqués, c'est les gens qui n'ont pas les informations, qui n'ont pas les vraies informations sur la religion. Parce que dès qu'on débat avec ces gens-là, là vous parlez de sexualité, mais parler de sexualité avec un croyant ou même avec un représentant de religion, c'est pas du tout blasphématoire, bien au contraire.
C'est le but de notre magazine, Le Monde des Religions, justement, de faire monter ce niveau général de connaissance sur les religions.
Il faut de la
connaissance, de la culture générale.
Complètement.
Eh bien, le Kama Sutra, le Kung Fu sexuel, je ne savais même pas que ça existait, ça. Si. Geisha, prostituée d'Ishtar, dieu libertin et autres tantrismes, c'est au menu de la sexualité sacrée. Il y a tellement de personnes à qui je pourrais l'offrir autour de cette table.
Oui, c'est ça. Oh non, c'est nous d'abord.
Ok.
Tiens, on va se le partager.
Merci Eric d'être venu à ce micro. Merci mille fois. Tanguy Passureau, on parle beaucoup à nouveau du président Macron.
Oui, puisqu'il a dit hier que malgré l'argent qu'on investissait sur eux, les pauvres restaient pauvres. Et c'est vrai que c'est nul de payer pour qu'à la fin les gens soient malheureux et n'aient pas de dents. Hein, à part chez Mousseline, ça ne réjouit personne. Macron va donc résoudre le problème de la pauvreté. En tout cas, on espère.
On continue de parler de Christophe dans la dernière partie de cette émission. Ce film sort le 11 juillet avec Michael Youn, Lucien Jean-Baptiste, Bernard Lecoq, Simon Astier et nos invités Victoria Bedos et Jarry.
C'est la bande originale avec Leïla Cadeau, vous
êtes bonjour à tous.
Guillermo Guéz, Tanguy Bastureau, Daniel Morin, Tom Villa, et nos invités Victoria Bedos et Jarry. Avec ce film qui s'appelle Christophe, une comédie de Pierre Dudan, c'est au cinéma à partir du 11 juillet. Michael Youn, Lucien Jean-Baptiste, Bernard Lecoq, Simon Astier et vous, Victoria et Jarry. Dans l'histoire de ce prêtre qui a envie de sauver un orphelinat, il a besoin de 50 000 euros. Un orphelinat qui est à Haïti, il a besoin de 50 000 euros. T'as qu'à filmer pendant que je parle aussi. C'est super désagréable. L'invité qui n'en a rien à faire de ce que t'es en train
de dire. Pas du tout, j'invite les gens à te découvrir.
Vraie nature.
Et donc, a besoin de ces 50 000 euros, seule solution, monter des concerts, partir, faire de la musique. Faire de la musique, chanter. Oh,
vous l'avez vexé.
Oh, mais non.
Amen.
Amen.
Allez.
Et là, c'est vous qui chantez. Non.
C'est censé être Simon.
Hein,
c'est Simon.
Là, c'est Simon qui chante cette partie-là, mais moi, je
le
chante.
Christ est là, Christ est là. Voilà. Très, vous chantez bien.
Ah ben, j'ai une vraie carrière.
Derrière vous. Il y a deux histoires qui se croisent, Leïla, dans ce film. Il y a à la fois ce groupe qui se monte pour récolter de l'argent pour sauver l'orphelinat d'Haïti. Et à la
l'avènement
fois
de Dieu, voilà, du Christ, tout simplement.
Non, c'est pas Dieu, c'est le Fils.
Oui, c'est le Fils. C'est l'avènement de cet individu terrestre.
Il y a mes années cathos qui reviennent. S'il te plaît, tu ne mélanges pas.
Je sens que voilà, il y a eu pas mal d'enseignements derrière.
Jesus is back.
Jesus. Et c'est l'avènement tout d'un coup. Et finalement, on peut voir une parabole pour tenir un petit peu le langage religieux de comment on se réalise à travers son expérience avec les autres, comment on essaye de les flouer et qu'on se rend compte que finalement le collectif est plus fort. Mmh. En gros, c'est les valeurs que ça défend aussi dans ce film-là.
Bien sûr, c'est des valeurs chrétiennes. En effet.
Et puis c'est aussi
c'est des valeurs de tous, je crois.
Oui, dire humaines en fait.
Ouais,
et que la religion, elle est partout autour de nous et que ces scènes qui sont des scènes sacrées, on peut les croiser dans notre quotidien et on y fait peut-être pas forcément attention.
C'est vrai.
Mais il y a peut-être un petit peu de magie dans chacun d'entre
oui,
nous.
C'est ça, c'est-à-dire que ce type qui a l'air d'être un gros loser, finalement, Alléluia. En fait, est le Christ.
Et ouais.
Et peut-être que voilà.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen, mes frères.
Il faut qu'on le dise dans toutes les religions.
C'est ça.
Et là, ok, salam.
Shalom.
Shalom. Shalom. Shalom. Je
vais dire bonjour.
Voilà, bonjour.
Shukran.
Shukran alaouji.
Ok. Voici Tanguy parce que Tanguy maltraite l'info. Il est là.
Ah, c'est lui. Bon mec. Hein.
C'était une question ?
Non, c'est un constat. C'est vrai que c'est un bel homme.
C'est un bon mec, hein.
Et Tanguy, justement, vous allez nous parler d'un autre bel homme, le président Macron, qui, depuis 24 heures, est au cœur d'une nouvelle politique.
Oui, et il adore ça, le bougre. Hein. Il choque, il fait bouger les lignes. C'est un jeune tout fou. Si c'était un animal, ce serait un bébé labrador. Et Nemo, son chien, le nettoierait avec la langue, pensant qu'il s'agit de son petit. Hier, dans la nuit, alors que Daniel Morin rédigeait l'une de ses 140 chroniques hebdomadaires, la chargée de com' de Macron, Sibeth NDI, tweet une vidéo de Dieu, pas celui qui est tout là-haut et qui, si ça se trouve, n'existe pas, à l'instar du relooker de Noël ma mère. Non, le petit qui vit en bas, Macron. Hein, alors on l'aperçoit assis derrière son bureau, parlant à des gens qu'on ne voit pas, comme Florian Philippot quand il préside une réunion de son parti, les Patriotes, parce qu'il est tout seul. Donc là, Macron, toujours assis, se met à parler, en bougeant les mains, les bras, tel un cul-de-jatte qui se serait mis à la Macarena. Alors le truc est tourné à l'arrache, avec un contre-jour, on a l'impression que c'est un film amateur, et qu'une MILF va débouler en disant à Macron « Petit, j'en ai déniaisé des comme toi. C'est pas parce que tu vis dans un F3000 entouré de dorures à la Puff Daddy que ça va m'empêcher de te chevaucher. Notre vidéo, elle va passer sur Equidia. » Alors bien sûr, c'est juste un coup de com', hein, afin que l'internaute se dise « Waouh, une vidéo de Macron volée. Si ça se trouve, Brigitte va arriver derrière, elle lui faire « Coucou, c'est qui ?» Si réponse c'est Gérard Collomb, je reconnais ta voix, elle va être verte. » En regardant ce film, on se sent proche de Macron, d'autant qu'il parle si mal que nous, hein, puisqu'à un moment il dit « on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens sont quand même pauvres ». Un pognon pour un chef de l'État, c'est familier. On a élu Eugène de Rastignac, on se retrouve avec Philippe Lucas. Et en plus, il a raison, malgré la CAF, le RSA, les pauvres restent pauvres, parce qu'il n'y a aucune répartition des richesses. Par exemple, moi qui suis là chaque jour, ben je pourrais payer un café à Guillermo Guise, qui n'est là qu'une fois par semaine et qui végète dans une précarité qui le pousse aux pires extrémités. Il a tenté de me vendre un rein. Il perd une dent par jour par manque de soins. C'est pour ça qu'il parle si vite, parce que l'air circule extrêmement vite dans sa bouche. Mais je ne le fais pas et je garde tout mon fric amassé sur la redevance des pauvres gens qui voient leur argent partir dans un gratin veau courgette topinambour bouffé par Marc Lavoine dans C'est à vous. Tandis que Patrick Cohen se resserre en se disant c'est pas sûr que j'ai encore de quoi subsister l'an prochain. Mais Macron, il vient du business, il a la win dans le sang. Pour lui, un pauvre, c'est un riche qui n'a pas encore cartonné avec son projet de start-up. Macron, c'est le Terminator. Il s'en fout de savoir si Sarah Connor a couché avec les boches. Ce qu'il veut, c'est la buter. Il est dans l'action. Une Coupe du Monde, ça se gagne, sinon on est des losers. Ouais. Des pauvres, ça devient des gens prospères, s'ils veulent bien se bouger, Luc. Ouais.
Donc ça veut dire que pour vous, le président Macron veut éradiquer la pauvreté.
Mais bien sûr, parce qu'il est toujours dans le mouvement, il déteste le surplace. Quand Brigitte porte du Vuitton pendant 3 jours, le quatrième, il lui dit « T'es gentil, bébé, tu mets du Givenchy, sinon je dis oui à Castaner sur adopteunmeclibéral.com ». Or, la pauvreté, ça ne bouge pas. Il y a toujours eu des pauvres. Au Moyen-Âge, c'était les gueux. En 94, les vendeurs de pins qui n'ont pas vu la mode des pins s'éteindre. Et en 2018, David Hallyday à cause des boudous. Mais Macron, ce qu'il veut, c'est qu'un pauvre qui a la niaque puisse en 10 ans devenir number one. Et le pauvre lui donner de l'argent, ça le conforte dans sa situation. Ce qu'il faut, c'est lui couper les vivres. Du coup, désespéré, il crée une application pour smartphone, valorisée en 7 secondes à 4 milliards d'euros. Et 15 jours plus tard, le pauvre fait la une de Forbes avec ce titre « Fucking France is back ». Et un article dans lequel il dit « C'est nul d'être riche ». Maintenant, je vois Jean-Luc Reichmann en HD sur écran géant, il est tout vieux, j'aimais autant être pauvre. Donc le constat de Macron est simple, on met de l'argent sur les pauvres, ils restent pauvres. C'est nul, les handicapés pareil. Un chien guide d'aveugle, ça coûte une blinde, et résultat, l'aveugle reste aveugle. Donc on va leur mettre un hamster, avec 2 pailles dans le nez, comme une actrice française au César, ils tiennent la semaine. La banlieue, il l'a dit à Borloo, fais ce que tu veux mec, mais j'ai 0 euro. Bref, il est persuadé que l'argent ne sert à rien. En fait, c'est un zadiste, mais bien peigné. Alors qu'avec juste la volonté, on peut faire des miracles. Regardez Thomas Sisley, il est parti de rien. 4 ans après, il était traducteur en français de sketch anglophone. Just do it, comme dirait Nike. Choose France, comme dirait Macron. Purée, j'adore les chansons de Bert Silva, elles sont battes, comme dirait Gérard Collomb, mais ça n'a rien à voir. Macron, hier, a annoncé que les lunettes, les prothèses auditives et dentaires seraient remboursées à 100%. Les pauvres vont voir, entendre et auront les dents du prince William. Là, s'ils ne trouvent pas de job pour accéder à la richesse, c'est à désespérer. En fait, Macron a créé l'homme augmenté, conçu à son image. Il voit, il entend, il sourit, il touche, il mord, il fait du pognon. C'est Bill Gates qui se retrouverait dans un 50 nuances degrés avec l'armure d'Iron Man. Alors en 2017, selon l'INSEE, il y avait en France entre 7 et 9 millions de pauvres, avec une explosion des inégalités. Pour un David Guetta, il y a 1000 faudels. Donc moi, je souhaite que Macron, notre poney fougueux, réussisse son pari. Il n'aime pas la pauvreté. On retire la pauvreté. Il agit sur la société comme un dermatologue sur une excroissance de peau qu'on a dans le cou. C'est formidable. Allez, viens Guillermo, je te paye un café.
Merci, Tanguy Passion. La voix originale, lundi, sur France Inter. Christophe, vous avez déjà fait des projections, j'imagine, en province. Vous avez fait une tournée, vous avez été au contact du public. Pas des critiques.
Oui.
On a fait une projection publique, on était...
C'était super. Ça s'est hyper bien passé. Oui. On était un peu anxieux par excellence parce qu'on ne savait pas si ça allait faire rire.
Quelles sont les premières réactions?
C'est du rire quand même. C'est quand même, il y a quelque chose
pendant le film.
Pendant le film, okay. De très spontané. Et après...
Les gens sont très étonnés en fait. Ouais. Ils disent on ne s'attendait pas à ce que...
Ils s'attendaient à quoi?
Je sais pas, je pense
que ça soit aussi frais, aussi agréable, aussi drôle, aussi sympathique. En fait, ils sont ressortis en disant on est heureux.
Puis c'est une bande, on est une bande dans la vie et dans le film, ça se ressent qu'on est un groupe d'amis, qu'on s'entend extrêmement bien. Donc il y a pas d'ego, il y a pas un acteur qui tire plus la couverture, c'est vraiment un film de bande et je crois que les gens ils ont besoin de ça encore de voir des gens s'amuser.
C'est vrai qu'il y a une cohésion, il y a une troupe et Michael Young à côté. Ce film aucune réaction.
Non mais il nous attend à la sortie, donc c'est pas
on a un peu peur en fait.
Qu'est-ce qui a été le plus dur là-dedans, c'est de chanter.
Non, moi, c'est de porter une combinaison de ski alors qu'il faisait 40 degrés. Parce que ça faisait partie des habits de la quête.
Des fringues, de se retrouver dans un corbillard avec des crucifix à l'intérieur. Et
je n'ai pas le permis, et je conduis le corbillard.
Moi, ça a été vraiment de...
Enfin, vous êtes sur une voiture plateau, oui.
Non, elle a vraiment conduit, mais elle a conduit sur 5 mètres.
Enfin, j'ai fait un dérapage quand même.
Oui, elle a fait un dérapage.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc j'ai tous les acteurs derrière moi, et je dis juste au premier assistant, je fais « Est-ce que tu peux juste me montrer où est le frein ?»
Voilà.
Mais là, je vois tout le monde en disant, non mais sérieux là, elle va conduire. Ouais. Ben oui.
Moi le plus dur c'était de me concentrer, de ne pas rigoler sur toutes les scènes. Parce qu'on avait cette envie de friser, de faire rire l'autre. Et quand on faisait le contre-champ, c'est-à-dire quand la caméra était sur l'autre, c'était un désastre. On faisait n'importe quoi.
On était des enfants quoi en
Imagine
fait.
Imagine ce que peut faire Michael Youn pour te déstabiliser. Ou te donner envie de faire autre chose que de tourner un film.
Et vous aussi.
Ah ouais, bah oui, mais oui.
Vous vengez aussi.
Ah oui. Non, c'était très très drôle. C'était que des blagues, des vannes, des...
Oui.
C'était le réalisateur a eu beaucoup 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 de patience.
Que des blagues, des vannes, justement. Ça ne sera pas le cas. Voici Daniel Morin.
Merci, bravo. Moi, je suis traité. Enfin bref. Faut pas y échapper, il est partout. Non, je parle pas de Nagui, c'est l'ancien président, le charismatique François Hollande, rappelez-vous, Hollande qui faisait tomber la pluie chaque fois qu'il apparaissait en public. Eh bien pour son bouquin depuis 2 mois, il est partout. Après on s'étonne que le pays soit inondé. Il a fait plus de 25 émissions radio ou télé pour la promo du bouquin. Madame, monsieur, bonsoir, à la fin du journal, nous accueillerons l'ancien président de la République, François Hollande. Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie. Mon invité ce soir, François Hollande. Aujourd'hui, dans Boomerang, je reçois un président blessé, un homme mal habillé, un écrivain inspiré. Bonjour, François Hollande. Ce soir, candidat exceptionnel dans des chiffres et des lettres, l'ancien président, François Hollande. Bienvenue dans Botus, aujourd'hui, pour tirer les boules, François Hollande. La messe de ce dimanche sera exceptionnellement célébrée par le père François Hollande. Manquerait plus qu'il nous fasse une vraie, vraie émission culturelle. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, notre invité, François Hollande. Faites du bruit ! J'ai rien dit. Allez, on change de sujet, les amis. Vous le savez, tout ce qui est joli a un prix. C'est vrai, ça. Qui veut une jolie robe, une paire de chaussures élégantes, un chapeau pimpant ou une chemise éclatante doit y mettre un minimum d'investissement.
Pimpant, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu pimpant.
Je suis là pour leur mettre au goût du jour. Pareil pour une jolie assiette, des couverts de qualité, des verres où il fait bon boire. Et ça, à l'Élysée, on l'a bien compris. Tout récemment, le couple présidentiel, Bri-Bri et Manu, aurait commandé un petit service de 1200 pièces pour les réceptions à l'Élysée. Un petit service qui aurait coûté 500 000 euros.
Non.
Quoi ? Mais comment ça, 500 000 boules ? Mais d'où tu dépenses 500 000 boules pour de la vaisselle ? Mais ça va pas à la tête ! Tu sais combien ça coûte chez Jiffy ? 1200 assiettes, hein ? Eh ben ça coûte 1200 euros. Voilà, hein ? Et t'as le choix, un choix de malade dans les couleurs. Blanc, rouge, bleu, vert, marron, mauve. Oui, mauve si tu veux. 1 euro l'assiette, bordel ! Non mais tu dépenses pas 500 000 boules en assiette après avoir réduit les aides au logement pour les étudiants. Non mais, en plus, imagine la pression que tu mets à tes invités. Imagine, si c'est pas annulé, le repas entre Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, et le président Macron. Déjà que la tension diplomatique est forte, là, je te dis pas.
Excusez-moi, Giuseppe.
Non.
Oui. Si vous pouviez appuyer moins fort avec le couteau quand vous coupez la viande.
Bah c'est quoi le problème, président?
Bah quand on appuie trop fort, ça raye la porcelaine.
Non. Tout me dit que je suis un animal qui sait pas maintenir la table.
Non, je te dis juste, faut faire un peu attention. C'est la vaisselle qui a coûté 500 000 boules. On peut essayer de la préserver un peu, c'est tout.
J'ai commencé à en avoir marre de toutes ces humiliations. Hein? Et que l'Italie fait preuve de cynisme, et que les Italiens mangent comme des sauvages. C'est bon, ça va, basta così, Macron.
Mais basta toi-même. Eh, hey, on n'est pas dans ta roulotte, le macaroni, tu vas me parler meilleur, hein? Et puis oui, tu manges comme un porc, et tu coupes la viande, on dirait que tu viens de couper l'assiette avec, hein? Putain, si j'avais su, tu t'aurais donné un gobelet en plastique, une assiette en carton, des couverts en bois. Pauvre type, fasciste!
Mais je t'emmerde, toi et ta vaisselle des guignols, tiens! Va, femme culo!
Oh non!
Une vaisselle à ce prix-là, moi ça me rend nerveux, je le comprends le président. Nerveux comme ça, moi je vous laisse, je vais chez Jiffy, je vais casser de l'assiette.
Merci de nous voir.
La bande originale.
Ah oui, c'est vrai.
Avec Nagui.
Parlons de l'avenir, à part la sortie de ce film le 11 juillet prochain, dans un petit mois dirons-nous, Christophe avec Michael Youn, Lucien Jean-Baptiste, Bernard Lecoq, Simon Astier, Victoria Bedos, vous travaillez j'imagine sur l'écriture de scénar, que ce soit pour vous ou pour d'autres aussi.
Oui, je suis en train d'écrire le premier film que je vais réaliser. Cette fois, je vais jusqu'au bout du processus créatif.
Et alors, vous êtes parti sur une idée autobiographique ou totalement
originale. Alors non, mais je pars toujours d'une sensation que j'ai eue à un moment donné, c'était à 15 ans. Je crois qu'il y a eu un traumatisme parce qu'après tous mes personnages ont cet âge-là.
Il s'est passé quoi à 15 ans?
Non, mais j'étais pas heureuse à l'école, moi. J'étais harcelée. On m'invitait pas au boom, ce qui est vraiment quelque chose que dont tu te remets jamais. Et même quand t'as l'impression d'être cool, tu ne l'es pas en fait au fond de toi.
Chercher à être populaire et être en place avec les autres.
Être en place avec les autres.
Moi, je trouve que ça prolonge et ça poursuit très longtemps.
À jamais t'as l'impression d'être de pas être dans le groupe, tu vois, de pas être invité. Ce que j'ai vécu d'ailleurs sur le tournage. Et donc oui, je travaille cet angle-là avec. C'est un peu Tutsi au collège en fait.
En étant, on sent un déguisement potentiel, une transformation exactement. Potentielle. Toujours le prisme de la comédie, parce qu'on peut faire passer plus de choses par la comédie que par le drame.
Exactement. En fait, c'est un sujet dramatique que j'aurais pu traiter comme un drame, mais c'est plus intéressant de le traiter comme une comédie.
Toutes les comédies ont un point de départ dramatique.
Ah oui, en fait, pour moi, on peut raconter La famille Bélier en tragédie, on peut raconter Rabbi Jacob en tragédie, on peut tout raconter enfin, généralement, c'est des points, en fait. L'humour et la politesse du désespoir, comme disait Kierkegaard. Ce qui fait que, pour moi, en fait, on utilise l'humour pour justement faire passer des choses qui sont dramatiques et que ça passe mieux et que les gens puissent plus l'accueillir et y penser, y réfléchir et que ça peut leur faire du bien. Il y a une catharsis aussi.
Et prendre la caméra pour réaliser, pour diriger les autres, ça c'est un défi aussi.
C'est juste pour avoir le pouvoir sur des hommes, mais sinon c'est pas ça.
Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment sur un tournage, soit que vous ayez écrit, soit que vous ayez soigné, pour reprendre l'expression de Script Doctor, soit sur lequel vous avez joué, en vous disant j'aurais pas fait ça comme ça?
Bien entendu, mais même mon premier scénario, La famille Bélier, c'est très difficile, j'ai eu l'impression d'accoucher sous X en fait.
Réalisé par Eric Lartigue.
Oui, qui est très bien d'ailleurs, et c'est, en plus j'ai rien à dire dessus, mais c'est tout d'un coup c'était plus mon bébé quoi, c'est-à-dire qu'on tu accouches d'un enfant, on te prend ton enfant et après on l'élève différemment, et c'est pour ça que je pense pas que scénariste c'est un métier qui me rend heureuse, parce que j'arrive pas à faire que ça en fait. Très vite j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de choisir le décor, diriger les comédiens, enfin voilà,
faire
le casting, choisir, parce que même quand on m'a dit c'est Louane, au départ j'ai fait mais elle me ressemble pas, ce qui est complètement bête comme réaction, parce que c'est pas moi, mais parce que j'avais identifié une fille qui était plus comme moi. Et ça, je suis très heureuse qu'une productrice soit venue me chercher, parce que moi, j'osais pas me proposer en tant que réalisatrice, qui soit venue me chercher en disant « Tu es capable de le faire, maintenant tu arrêtes de te planquer, toi aussi tu peux le faire. »
Et diriger, parce que c'est pas tout la technique, le cadre, mais diriger des comédiens.
Ah, j'en rêve ça. Ça, bizarrement, c'est quelque chose, je sens que c'est possible.
Sans être vous devant la caméra?
Non, j'ai pas envie de jouer, parce que ce que j'aime quand je suis actrice, c'est justement d'être dirigée. C'est vraiment s'abandonner au regard de l'autre.
Le lâcher prise.
Mmh. Comme j'en ai pas beaucoup, c'est vraiment un moment que j'adore. J'adore jouer pour ça. Comme j'adore faire l'amour. Enfin, c'est les mêmes choses pour moi.
Ah oui, ça, je m'en souviens.
La pudeur.
Cette fameuse pudeur.
Quant à vous, Jarry, le nouveau spectacle est prêt?
Arrive à partir du mois de janvier.
Tu n'es pas prêt du tout, quoi.
Non, mais ce qui est fou, c'est que les premières dates qui ont été annoncées, c'est déjà complet. Ouais. C'est-à-dire que c'est un nouveau spectacle et uniquement sur le Jarry atypique, ça accroche.
Mais
ça
le donne public envie de Jarry, après, un public de fans complètement hystéro et dévoué, Moi, j'ai été le voir à l'Olympia.
C'est vrai.
Et dix minutes avant, les gens hurlaient son nom. Et la première apparition de Jarry est sonore.
Oui.
Où il fait juste derrière le rideau un coucou et les gens sont ouf.
Rockstar.
Ouais. Non, je suis très content parce qu'un deuxième spectacle, c'est compliqué. On a l'impression d'avoir passé notre vie à écrire le premier et qu'on y a tout mis. Ouais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver.
Comme si c'était le dernier. C'est-à-dire en disant, il faut tout mettre maintenant parce que j'aurais peut-être pas la possibilité d'en faire d'autres.
Et le lendemain de ma dernière, j'ai regardé tout mon entourage en disant, je n'ai plus rien à dire. Donc je vais essayer de trouver un métier.
Drama queen à mort.
Et là, j'ai très envie de parler des femmes. Je trouve que. Il y a quelque chose chez la femme qui m'a toujours inspiré, qui m'a donné envie de vivre, que ce soit les mamans, mais que ce soit les femmes en général. On a souvent tendance dans l'humour à les prendre comme cible pour rigoler. Moi, j'ai envie de leur rendre hommage et j'ai envie qu'on rigole un peu, du coup, des hommes.
Merci, Jarry.
Merci.
je t'en prie, c'est pas pour autant qu'on fera l'amour. Ouais,
merci. Donc vous avez décidé de ne pas faire un spectacle drôle.
Ah si. Ça va être très drôle. Et puis aussi la réalisation et de mon premier long métrage que j'ai écrit. Que
alors voilà, ça aussi. Alors je voulais juste donner quelques dates quand
oui,
même.
Oui, bah donnons.
De la tournée en 2019. Nantes, c'est déjà comblé, mais on peut toujours trouver des places ou trouver des potes qui en ont acheté deux.
Les gens se mettent sur les genoux des autres.
Il y a Nice qui sera du 31 janvier au 2 février. Ensuite, Montpellier, Toulouse, Bonneville, Montigny-les-Metz, Maromme, c'est déjà complet. Bétoncourt, Saint-Jean-sur-Veil, Ambérieu, Ambugé, Gravesson, Marseille, ça sera le 26 avril, au Cap d'Agde le 27 avril, puis ah, Vierzon, Braine-le-Comte. Il n'y a pas de date parisienne déjà annoncée ?
Non, parce que c'est une tournée de rodage, c'est-à-dire, alors j'aime pas ce mot.
Rodage, vous êtes gentil, il y a 6 mois, ça va, ça sera plus que rodé, là. Vous serez en révision des 5000.
Oui, vous allez peut-être m'engueuler.
Mais non, mais.
Ah, c'est le garagiste qui parle.
Mais non, mais...
puis le rodage, ça n'existe plus en plus.
Non, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, les humoristes, sur nos réseaux sociaux pour nous dire pourquoi vous venez pas dans nos villages, pourquoi vous venez pas dans nos provinces, vous faites que les grandes villes. Et moi, j'avais promis que j'irais même dans le trou du cul du monde parce que partout ah, ça, où on a envie que les gens viennent, je viens et je joue le jeu. Donc je vais dans plein d'endroits, dans des salles de 200.
Ils vont, bien le prendre, les Nantais, que vous disiez. Je vais aller dans le trou du cul du monde, je serai à Nantes du 22 janvier au 26 janvier.
Partout où les gens veulent de moi, je viens.
Et la réalisation ?
La réalisation
passe forcément par l'écriture aussi ?
Oui, 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 j'ai voulu écrire une histoire qui soit un peu l'histoire que j'ai vécue avec mon papa, qui va s'appeler « À tes côtés ». Voilà, mon père est parti d'une tumeur au cerveau. J'ai vécu
c'est une comédie ?
Ouais, c'est une comédie sur les soins palliatifs. Cet endroit qui fait un peu peur. On sait que quand on vous dit vous intégrer les soins palliatifs, les jours sont comptés. Et moi, je l'ai vécu pendant quelques mois avec mon papa. Ça a été absolument magique et génial. C'est un endroit où les gens... consacrent toute leur vie aux dernières heures de ces personnes. On rigole, on joue. C'est peut-être un endroit où on ne triche plus du tout parce qu'on sait que tout ce qu'on se dit est très important. J'y ai eu des crises de fou rire avec que ce soit le personnel soignant, les médecins, mon père, les gens de ma famille. J'avais envie de dire aux gens, n'ayons pas peur de ces derniers moments parce qu'ils ne sont pas forcément angoissants. Ils peuvent être aussi source bien de vie parce que moi, j'ai l'impression d'être né ce jour-là.
Vous allez le tourner en 2019-2020, c'est parce que c'est long un film.
Oui, je vais
c'est
le...
tellement long.
Et en fait, ce film va tourner sur une année donc, parce qu'il y a les 4 saisons dans le film, donc ça va prendre du temps.
Très bien. À tes côtés. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour nos auditeurs intégristes qui ont légitimement été choqués d'entendre Jarry parler de la foi, des valeurs, des traditions catholiques. Ouais, je vous rejoins, je me sens vraiment pas propre, moi non plus. Désolé pour nos auditeurs très France Inter et logiquement fans de l'humour de Michael Haneke, de la grosse déconne des frères Dardenne et qui ne sont pas forcément reconnus dans le cinéma dont Jarry et Victoria Bedos ont fait la promotion ce matin. C'est vrai que moi non plus, je me sens pas très très propre. Désolé pour Éric Lartigot, le réalisateur de La Famille Bélier, qui a été traité de voleur de scénario, voire d'enfant, par Victoria Bedos. En même temps, Nagui, qui vous connaît bien, Éric, vous a raconté une petite anecdote. Il paraît que vous devez du pognon à tout le monde.
Merci mille fois et bravo surtout. Merci Victoria Bedos.
Merci Jarry.
Demain, Sabrina Ouazzani et Simane seront nos invités. Tout de suite, à suivre, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Ça sera après ça.